Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Bonjour et bienvenue à nouveau à notre cours biblique. Voici la deuxième partie de notre série sur l'Évangile selon Marc. Nous y découvrons de nombreuses vérités importantes de l'Évangile. Partout où nous lisons la Bible, nous attendons Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu dit est d'une grande importance. La dernière fois, nous avons terminé avec Marc chapitre 1, versets 32 à 34. Lisons à nouveau pour réviser. Les soirs venus, après les couches du soleil, en lui amenant tous les malades et ceux qui étaient possédés par des démons. Toute la ville était rassemblée à la porte. Il guérit beaucoup de malades atteints de diverses maladies et chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas les démons parler, car il les connaissait. Jésus guérit de nombreuses personnes de leurs maladies et chassa également de nombreux démons. Comme nous avons vu dans des cures précédents, la guérison des maladies est une image de la guérison de notre péché que Jésus opère lorsqu'il nous sauve. De même, l'expulsion des démons est une image du fait que, par le salut, nous sommes libérés de l'autorité du diable et transférés dans les royaumes de Dieu. Passons au verset 35. Nous lisons à propos du Seigneur Jésus. Le matin, bien avant l'aube, il sort et se retira dans un lieu désert. Et là, il pria. Ceci parle du Seigneur Jésus. Nous voyons que Jésus s'élève avant le lever du soleil pour aller prier. Jésus est le Dieu éternel et pourtant, il ne néglige pas la prière. Enfin, Jésus est très assidu dans la prière, car il s'élève très tôt le matin alors qu'il fait encore nuit pour prier. Si Jésus est Dieu et qu'il est assidu dans la prière, alors nous devrions l'être d'autres plus. Ces versets et d'autres nous disent que la prière est très importante pour Dieu et pour nous. La prière complète les dialogues entre nous et Dieu. Nous attendons la voix de Dieu lorsque nous lisons la Bible. Et la prière est notre réponse à Dieu. Le fait que Jésus s'élève tôt pour prier nous enseigne l'importance de la prière. Nous faisons d'abord ce qui est le plus important. Et la Bible rapporte que Jésus s'élève tôt, avant même le lever du soleil, pour prier. Dieu nous enseigne donc que la prière doit être notre priorité absolue. Nous remarquons également que Jésus s'est retiré dans un lieu isolé pour prier. Il est possible qu'il se soit rendu dans les déserts ou une zone sauvage, car c'est la traduction la plus courante de ces mots. Jésus priait seul, à l'abri des distractions. Ceci nous enseigne l'importance de prier seul, sans être distrait par quoi que ce soit. Nous lisons un passage de Matthieu 6 qui développe davantage les sujets de la prière. Nous lisons à partir du verset 5. « Quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier, debout dans les synagogues et au coin du riz, afin d'être vus des hommes en vérité. Je vous l'ai dit, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père, qui est là, dans les secrets. Et votre Père, qui vous doit les secrets, vous les rendra publiquement. Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines répétitions comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne le rassemblez donc pas, car votre prière, c'est de quoi vous avez besoin avant même que vous les lui demandiez. » Ce passage contient de nombreuses vérités importantes. Jésus critique les enseignements religieux de son époque. Il les qualifie d'hypocrites car ils prétendaient d'être des hommes saints de Dieu. Mais Dieu voyait dans leur cœur qu'ils se rebellaient contre lui. Jésus les reprochait également de prier pour être vus des hommes. Il priait au coin de rue pour que les hommes les voient et les croient saints. Jésus dit qu'ils ont reçu leur récompense, à savoir les louanges des hommes, mais ils n'ont aucune récompense de Dieu au ciel. Ensuite, Jésus nous donne des instructions sur les façons de prier. Nous ne devons pas prier pour être vus des hommes. Jésus dit « Entrez dans votre chambre et fermez la porte ». Ceci conforme à ce que nous lisons dans Marc chapitre 1. Aller dans sa chambre signifie être seul, sans distraction. C'est ce que Jésus fait lorsqu'il prie son Père. Nous pouvons nous retirer dans notre chambre en nous éloignant des distractions de ce monde et en nous unir à Dieu dans la prière. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Nous lisons aussi dans Matthieu 6 que nous ne devons pas nous répéter. Dieu sait ce dont nous avons besoin et ce que nous allons dire. Nous ne changerons pas la vie de Dieu en répétant sans cesse les mêmes prières si elles ne viennent pas du cœur. Nous lisons aussi dans Marc chapitre 1 que Jésus allait prier très tôt, le matin alors qu'il faisait encore nuit. D'autres versets bibliques confirment ces messages. On lit dans Psaume 5, verset 3. Éternel, le matin, tu attendras ma voix. Le matin, je t'adresserai ma prière et je leverai les yeux vers toi. Le psalmiste s'efforce de parler à Dieu le matin avant d'être occupé par les autres activités de la journée. En général, le matin est un moment propice pour se libérer de distractions. On lit dans le psaume 55, verset 17. Le soir, le matin à midi, je prierai, à haute voix, et il attendra ma voix. Ici, le psalmiste mentionne trois moments de la journée où il prie Dieu le soir, le matin et à midi. Ceci souligne que nous pouvons prier Dieu tout au long de la journée, même en faisant d'autres activités. Ceci est en accord avec l'affirmation de la prière lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Nous lisons « Priez sans cesse ». Autrement dit, nous devrions prier à différents moments de la journée. Nous lisons dans les psaumes 88 verset 13. Mais c'est à toi que j'écris, ô Éternel. Dès le matin, ma prière te prévaudra. Le mot prévenir signifie avancer. Le psalmiste dit qu'il avance vers Dieu dans sa prière. Ces versets soulignent une fois de plus l'importance de prier tôt le matin, compte tenu de l'importance de la prière. Le psaume 119, verset 147. Évoque également la manière dont le psalmiste a anticipé ou avancé le matin pour prier Dieu. Nous lisons « J'ai anticipé l'aube et j'ai crié, j'espère en ta parole. » Examinons un autre verset. Nous lisons dans Isaïe chapitre 26, verset 9. « De toute mon âme, je te désire pendant la nuit. Oui, avec mon esprit. » En moi, je te chercherai dès le matin, car lorsque tes jugements s'exerceront sur la terre, les habitants du monde apprendront la justice. Le prophète Isaïe cherche le Seigneur d'un cœur sincère. Chercher le Seigneur implique à la fois la lecture de la Bible et la prière. Ainsi, nous bouclons la boucle de communication. Il y a de très nombreux versets sur la prière dans la Bible. Voici un petit aperçu des versets sur la prière. Dieu inspire le langage de tous ces passages pour nous encourager à prier. et à faire de la prière une priorité essentielle, une route quotidienne. Revoyons à Marc chapitre 1 et continuons avec le verset suivant. Nous lisons à partir du verset 36. Et Simon et ceux qui étaient avec lui les suivent. L'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous les hommes te cherchent. » Il leur répondit, « Allons dans les villes voisines, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis venu. » Il prêcha dans leur synagogue, dans toute la ville, et il chassa les démons. Simon Pierre et d'autres disciples partiront à la recherche du Seigneur Jésus et les retrouveront. Ceci confirme que Jésus pria seul. Après l'avoir trouvé, ils lui dirent, « Tous les hommes te cherchent. » Jésus leur répondit qu'il était temps pour eux de visiter d'autres villes et d'y prêcher. Nous remarquons également cette déclaration intéressante concernant la mission de prêcher dans différentes villes. Jésus dit « C'est pourquoi je suis venu ». Jésus indique que, ainsi qu'une partie de la mission que Dieu lui avait confiée, était de prêcher l'Évangile. La mission principale de Jésus, lorsqu'il est venu au monde, était de payer le prix des péchés de tous ceux qui viendraient se confier en lui comme sauveur. Mais Marc chapitre 1, verset 38, indique que Jésus avait aussi une mission d'annoncer l'Évangile au peuple. C'est la même mission qu'il a confiée aux vrais croyants lorsqu'il retourna au ciel. Durant ses 3 ans et demi de ministère terrestre, Jésus a accompli la même œuvre qu'il a confiée aux vrais croyants, prêcher et publier la Bible. Nous apprenons davantage sur les faits que le Seigneur Jésus est également venu apporter l'Évangile dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Voici les récits de la venue du Seigneur Jésus à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et s'éleva pour lire. On lui a remis les livres du prophète Isaïe. Lorsqu'il ouvre les livres, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour proclamer l'année du grâce du Seigneur. » Puis il referma les livres, les remit au ministère et assit. Tous ceux qui étaient dans le synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture que vous avez attendue. » Jésus se rendit à la synagogue et a lu un passage du livre d'Isaïe. Jésus a lu Isaïe chapitre 61 verset 1 et 2. Le livre d'Isaïe a été écrit 700 ans auparavant et avec la venue du Seigneur Jésus, ces prophéties s'accomplissent aujourd'hui. Jésus indique même que ces passages d'Isaïe chapitre 61 parlent de lui-même par cette déclaration. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit à vos oreilles. Le chapitre 61 d'Isaïe dit que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, le terme « pauvre » ne désigne pas ceux qui sont démunis ou qui manquent de moyens. La bonne nouvelle est annoncée à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, qu'ils soient riches ou non. Il s'agit plutôt des pauvres en esprit dont il est question dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 3. Nous lisons « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont ceux qui sont humbles et reconnaissent leurs péchés et leurs besoins d'un sauveur. Ils reconnaissent que leur esprit est pauvre aux yeux de Dieu. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, Nous sommes dans une position humble pour prêter attention à l'Évangile. Jésus a également cité un passage d'Isaïe chapitre 61, « Prêcher la délivrance aux captifs ». Le terme « captifs » désigne ici ceux qui sont prisonniers de leur péché et sous la colère de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jean chapitre 8 que nous sommes les serviteurs du péché si nous péchons, et comment la vérité de l'Évangile nous libérera. Nous lisons à partir du verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il lui répondra, « Nous sommes de la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous serez libre ?» Jésus les répondit, « en vérité, je vous l'ai dit, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Dans ces passages, Jésus nous avertit que si nous péchons, nous devenons esclaves du péché. Nous sommes captifs du péché. Mais au verset 32, Jésus promet à ceux qui sont sauvés que la vérité vous rendra libre. Avant le salut, nous sommes captifs de notre péché. Mais après le salut, la vérité de l'Évangile nous libère de cette captivité. Le salut est la délivrance des captifs que Jésus a prêché. Nous allons maintenant revenir à Marc chapitre 1. Ce bref détour nous permet d'apprendre davantage sur le fait qu'une partie de la mission de Jésus durant ses 3 ans et demi de ministère terrestre consiste à prêcher l'Évangile. Nous lisons dans Marc chapitre 1 à partir du verset 38. Il leur dit, « Allons dans les villes voisines, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis venu. » Il prêcha dans leur synagogue, dans toute la Galilée, et il chassa les démons. Une partie de la mission confiée à Jésus par Dieu le Père était de prêcher l'Évangile en différents endroits. Et Jésus accomplit cela dans Marc chapitre 1. Nous lisons à nouveau qu'il a chassé les démons. Nous avons examiné des versets qui indiquent que chasser un démon préfigure la délivrance du royaume de Satan que nous recevons lors du salut. Continuons avec le verset 40, nous lisons. Un lépreux s'approcha de lui, le supplia, se prosternant devant lui, et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Aussitôt qu'il lui parlait, la lépreux le quitta et il fit purifier. Ensuite, un homme atteint de la lépreux est venu trouver Jésus pour être guéri. La Bible utilise la lèpre comme image du péché, de la façon dont il nous infecte et de la manière dont il nous purifie devant un Dieu saint. Dans ces récits, un homme atteint de la lèpre est venu trouver Jésus pour être guéri, et Jésus l'a guéri. Mais puisque ce récit est consigné dans la Bible, Dieu s'en sert comme outil pédagogique pour nous révéler d'autres vérités de l'Évangile. La Bible parle de la lèpre à plusieurs reprises et nous examinons quelques passages pour découvrir l'enseignement de l'Évangile que Dieu nous adresse. Nous commencerons par examiner les livres du Lévitique dans l'Ancien Testament où Dieu a donné de nombreuses lois cérémoniales pour l'ancien Israël. Ces lois cérémoniales illustrent-on dans la vérité évangélique. Nous lisons Lévitique chapitre 13 où Dieu indique qu'une personne atteinte de la lèpre était cérémoniatiquement impure et ne pouvait pas entrer dans le camp de la congrégation. Nous lisons à partir du verset 42. Et si une plaie blanche et rougeâtre apparaît sur le crâne chauve ou le front dégarni, c'est une lépreux qui a poussé sur son crâne chauve ou son front dégarni. Le prêtre l'examinera et verra si la plaie est blanche ou rougeuses sur les câbles chauves ou les fronts chauves comme la lépère apparaît sur la peau. C'est une lèpre. Il est impur. Le prêtre le déclara totalement impur, car le malade est dans sa tête. Quand le père atteint de la peste, on déchirera ses vêtements, on lui laissera la tête nue, on se couvrira la lèvre supérieure d'un voile, on criera « impur, impur ». Tant que la peste le rongera, il sera souillé, il est impur, il habitera seul, hors du camp. Les lèpres étaient qualifiés d'impur et devraient même crier « impur, impur ». Il s'agissait d'une loi cérémoniale qui souligne que nos péchés nous rend impurs aux yeux d'un Dieu saint. Par exemple, on peut lire dans les livres d'Isaïe, chapitre 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des êtres impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétrisses comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. » Ici, le prophète admet d'être impur. Remarquez ensuite que cela est lié à notre propre justice. Tous nos efforts pour être acceptables à Dieu par notre propre justice seront vains, car il est impur devant un Dieu saint. Comme mentionné dans les versets, notre justice est considérée comme un vêtement souillé devant un Dieu saint, car nous sommes employés au péché. Ce verset parmi tant d'autres souligne notre besoin d'un sauveur, et Dieu a pourvu un Jésus pour être le sauveur de tous ceux qui viennent à lui faire confiance. Et nous pouvons demander à Dieu de nous sauver et de nous accorder notre confiance en le Seigneur Jésus. Nous voyons dans le chapitre 64, verset 6 d'Isaïe que Dieu utilise l'image de l'impire pour indiquer que nos péchés nous rendent impurs devant un Dieu saint. Examinons un autre exemple. Nous lisons dans le chapitre 6 d'Isaïe à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent les temples. Au-dessus de lui, s'étenait le séraphin. Chacun avait six ailes, deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds et deux pour voler. Et l'un criait à l'autre, « Saint, Saint, Saint !» Et le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. À la voix de celui qui criait, les poteaux de la porte trembleront et la maison fut remplie du fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, le seigneur des armées. » Alors l'un de ces séraphins volait vers moi, tenant à la main une braise ardente avec les pinces de l'autel. L'un toucha ma bouche et dit, « Voici !» Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée et ton péché expié. Ici, le prophète Isaïe reçoit une vision de Dieu d'autant d'avant la rédaction de la Bible, époque où Dieu communiquait encore occasionnellement avec l'humanité par des visions, des rêves ou d'autres moyens. Mais maintenant, Dieu a achevé sa parole, qui est la parole complète de Dieu pour l'humanité. La Bible indique que Dieu ne donne plus des rêves, des visions, etc. Cette vision reconnaît la sainteté de Dieu comme en témoigne la proclamation « Saint, Saint, Saint ». Dieu souligne sa nature glorieuse et sainte. Le mot « saint » souligne que Dieu est parfait et sans péché. Cela a contre le prophète Isaïe à reconnaître sa propre iniquité. Comme il le dit, « Malheur à moi, car je suis perdu, parce que je suis un homme aux lèvres impures. » Les lèvres sont liées à nos paroles. Impur signifie péché aux yeux d'un Dieu saint. Le prophète Isaïe est conscient de sa propre iniquité, y compris des paroles qu'il prononce parfois. Ces paroles lui valent au sein figure des lèvres impures. Le prophète reconnaît également que le peuple d'Israël était pécheur, puisqu'il déclare « J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures ». L'expression « lèvres impures » désigne encore une fois des paroles pécheresses. Ces passages montrent une fois de plus que Dieu utilise le terme « impur » au sens des péchés aux yeux des dieux saints. Quand Dieu nous sauve, il utilise le langage de la purification de nos péchés. Par exemple, nous lisons dans le livre des Échées, chapitre 36, à partir du verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles. Je vous donnerai aussi un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, que vous observiez et que vous pratiquiez mes ordonnances. Ceci est un langage parabolique. Remarquez que Dieu dit, je vous purifierai de tous vos idoles. Il ne s'agit pas d'un simple lavage à l'eau et au savon dans un baignoire. L'eau du bain ne nous purifiera pas de nos idoles, ni de nos faux dieux. Le plomb des saluts des dieux nous purifie de nos idoles, de nos faux dieux et de nos fausses religions. Lorsque Dieu dit qu'il répandra sur vous une eau pure et vous serez purs, il utilise le langage de la purification pour parler de son salut. On trouve d'autres passages similaires dans les premiers livres de Jean, au chapitre 1, verset 7. Nous lisons. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. »
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Le temps imparti à notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous continuerons cette étude la prochaine fois.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.